Bienvenue dans votre magazine Terre d'héritage.
Terre d'héritage, c'est valoriser le patrimoine près de chez vous, le patrimoine de la Sarthe, de l'Orne et de la Mayenne. Nous allons vous faire découvrir les trésors qui vous entourent.
Terre d'héritage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine Terre d'héritage sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Aujourd'hui, nous recevons deux propriétaires de châteaux sur la Sarthe. Tout d'abord, Marie-Josée Forissier, propriétaire du château de Vilaine à Louplande.
Madame Forissier, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, pouvez-vous nous parler de l'histoire du château de Vilaine à Louplande ?
Alors, Vilaine est un château qui est remplacé tel que vous le voyez aujourd'hui, tel qu'on le voit aujourd'hui, un château beaucoup plus important en taille, qui datait pratiquement du XIIIe siècle et qui appartenait à la même famille depuis, qui s'appelait la famille de Guignon. Et cette famille de Guignon a reconstruit le château tel qu'il est aujourd'hui, le château de Vilaine, vers 1630, et l'a conservé jusqu'un petit peu avant la Révolution, où en 1776, elle a vendu les terres de Vilaine et le château à un nouveau propriétaire qui était un Nantais et qui s'appelait le Marquis d'Eau, et qui, quand il est arrivé, a rebaptisé le château de Vilaine Château d'Eau. C'est-à-dire que pendant tout le XIXe siècle, de 1776 exactement à 1905, le château, qui est le même, ça a été baptisé le Château d'Eau, nom qu'il a reperdu pour retrouver son vrai nom de Château de Vilaine en 1905 à la mort de François d'Eau, qui était le dernier descendant de cette famille. Mais vous voyez qu'en fait, il y a eu très peu de propriétaires, puisque la première famille est restée pendant des siècles, et la famille d'Eau est restée pendant 5 ou 6 générations. Et après, on est au XXe siècle. Oui. Ça, c'est pour l'historique des propriétaires. Et c'est donc 1630, vous situez que c'est un château très, très typiquement dans l'esprit et dans le style architectural absolu du XVIIe siècle.
Alors oui, depuis combien de temps vous êtes-vous propriétaire justement de ce château ?
Alors nous sommes propriétaires depuis 22 ans exactement, depuis 1997.
Alors qu'avez-vous mis en place au niveau de ce château, peut-être des visites notamment ?
Alors beaucoup de choses. Nous nous sommes consacrés beaucoup au jardin, on va peut-être en parler. À l'intérieur du château lui-même, on a fait des aménagements, des rafraîchissements, ce qui est un peu normal, il y a une vingtaine d'années. Et puis en fait, dans une maison de cette taille, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut revoir, qui est cassé, qu'il faut repeindre, qu'il faut... C'est la vie de maison de cette taille, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup, en proportion, consacré au parc et au jardin.
Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce château ? Pourquoi l'avoir, entre guillemets, acheté ?
Écoutez, à l'époque, donc il y a un peu plus de 20 ans, on a eu un coup de cœur pour son harmonie. Quand on hérite d'une propriété familiale, on la prend comme elle est. Elle peut être lourde, elle peut être légère, elle peut être gracieuse, la période où elle a été construite. Nous avons eu la chance de l'acquérir par choix. Et l'harmonie générale de cette maison nous a beaucoup frappé. C'est une harmonie typique du 17e, effectivement. C'est un bâtiment très mince, je ne sais pas si l'expression est bonne, qui est en fait orienté avec nord-sud-est-ouest de manière très traditionnelle et surtout dont la lumière est traversante, c'est-à-dire que quand vous arrivez en sortant des bois, vous voyez la lumière qui traverse le hall du château, ce qui vous montre que, si vous voulez, les pièces sont en fait très étroites, ce qui est très joli parce qu'effectivement, ça n'est jamais austère.
Alors peut-être vous, avez-vous mis en place des restaurations justement de ce château ?
Oh, forcément beaucoup de choses. À l'intérieur, on a évidemment créé des éléments de confort qui n'existaient pas. On a créé une ou deux salles de bain dans des pièces qui étaient intérieurement des chambres. On a apporté, bien entendu, tout ce qui est familial de notre part, c'est-à-dire des meubles et des tableaux qui venaient de nos familles, parce qu'effectivement, la maison était vide, ce qui est logique. Et il y a eu des travaux pas forcément intéressants, mais qui ont été des travaux de réparation, d'électricité, de plomberie, et pas seulement de décoration, et c'est bien normal.
Alors peut-être pouvez-vous justement nous présenter l'intérieur du château ?
Alors l'intérieur, ce qui est montrable et visitable, c'est le hall, qui est très clair, très peu meublé volontairement, avec une très belle cage d'escalier en ferronnerie, qui est pour les puristes est particulièrement jolie et gracieuse. Un salon qui est un salon qui a été revu au directoire, bien que postérieur à la période de construction du château. Pourquoi ? Parce que pendant la Révolution et pendant l'exil du marquis d'Eau dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand il est parti à l'étranger parce qu'effectivement il était menacé, il y a eu un incendie dans le château qui, Dieu merci, n'a trop endommagé de choses, mais qui a quand même endommagé une pièce qui est le salon, qui a donc été revue au directoire. Donc ce salon est tout à fait visitable. Et puis de l'autre côté du hall, il y a une grande salle à manger qui, elle, est tout à fait de l'époque d'origine, de 1600 et quelques, 30, qui a ses boiseries en chêne du moment. On voit encore d'ailleurs dans la cheminée les armoiries du marquis d'Eau qui les avait placées quand il est arrivé un petit peu avant la Révolution. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut voir à l'intérieur. Et puis, que vous dire d'autre ? Après cette salle à manger, il y a une autre petite salle à manger, mais qui est moins intéressante, qui est plus petite, mais qui permet de ressortir vers les jardins au sud.
Alors, parlons justement des jardins. Que pouvez-vous nous dire dessus ? Commençons peut-être par l'extérieur nord.
Donc, quand on arrive au nord, on descend vers le château et on a, à l'est et à l'ouest, ce qu'on appelle les jardins d'utilité, c'est-à-dire les jardins qui servaient à se nourrir au XVIIe siècle. Donc, le verger, quand vous descendez, le verger est à votre gauche et le potager est à votre droite. Le potager, il est clos de mur, donc on ne le voit pas, enfin on voit le mur, mais tout ça n'est pas offert au regard. C'est-à-dire que ce qui se mangeait, entre guillemets, était enlevé au regard. Et le reste, ce sont des jardins dits d'agrément, c'est-à-dire c'est ce que vous voyez par la fenêtre. Que ce soit des taupières, ce qui est le cas notamment au nord, ou d'ailleurs au sud. Donc quand on arrive, on descend à travers un parc qui est tout à fait dans un esprit français, très symétrique, très très français, jusqu'au bâtiment. Et puis on laisse à droite le potager et à gauche le verger.
Donc oui, hein, trois zones entre guillemets dans ce jardin, l'extérieur nord, l'extérieur sud et le potager.
C'est au nord le potager. Vous avez au nord ce que vous voyez qui sont des allées rectilignes avec des taupières, et vous avez à gauche le verger, à droite le potager. Tout ça est en effet, les jardins d'utilité sont au nord, vous avez raison.
Alors peut-être nous donner les horaires de visite justement de ce château et de ces jardins.
Alors, nous sommes ouverts en juin, juillet, septembre. Du mardi au samedi, de 10h à 12h, 14h à 18h.
Peut-être justement des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements.
Alors, on peut m'appeler sur ce numéro de téléphone, 06 08 73 15 85, ou on peut appeler éventuellement notre gardienne, dont je peux vous donner le téléphone, si vous le souhaitez, et puis après je vais vous donner un mail éventuellement, ce qui est encore peut-être plus simple. Donc notre gardienne, c'est 06 73 10 35 47, Madame Lavalette. Et on peut aussi très bien me demander des renseignements par mail. Et par mail, c'est mj.forissier, F-O-R-I-2-S-I-E-R, @comagie.fr.
Avant de finir, avez-vous peut-être des projets au niveau de ce château de Vilaine ?
Alors, il y a des choses qui sont régulières et puis des choses qui sont nouvelles. D'abord, le jardin bouge tous les ans. C'est-à-dire que chaque année, on rajoute un élément au jardin qui intéresse les gens qui étaient venus l'année d'avant. C'est-à-dire une partie qu'on repense, qu'on replante, qu'on redessine. Donc ça, c'est constant. Et puis, pour parler des événements à venir, nous allons être ouverts, bien sûr, pour les journées du patrimoine, qui sont le troisième week-end de septembre, le samedi et le dimanche. Et à cette occasion, le dimanche après-midi, à 15h, 16h et 17h, il y a toujours un petit concert de musique classique dans le hall du château qui est offert aux gens qui sont là à cette heure-là, qui par exemple sont venus visiter le jardin, qui entrent dans le hall et qui peuvent entendre un mini-concert, si vous voulez, donné par un pianiste américain qui s'appelle David Salmonas.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose ?
On focalise nos visites sur le jardin et sur les extérieurs parce que les contraintes qui ont été imposées mais qui commencent déjà à s'émousser et à reculer, qui ont été imposées par les décisions sanitaires, compliquent un peu les visites de l'intérieur. Donc, je pense que vers le 20 juin, tout ça sera très allégé et on pourra à nouveau faire visiter l'intérieur de manière normale. Actuellement, nous ne le faisons que par exception, quand il y a vraiment très très peu de monde, pour ne pas enfreindre les règlements qui nous sont suggérés. Il n'y a aucun problème, bien évidemment, sur tout ce qui est extérieur et jardin. Nous avons d'ailleurs eu beaucoup, beaucoup de monde à l'occasion du week-end de la Pentecôte.
Madame Forissier, je vous remercie hein, et je vous dis à bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir, madame.
Au revoir.
Nous continuons ce magazine avec Hélène Dupérou, propriétaire du château de Daubert à Avoise.
Madame Dupérou, bonjour.
Oui, bonjour.
Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le château de Daubert et notamment son histoire ?
Alors, l'histoire de Daubert est une histoire très longue parce que cette propriété appartient à notre famille, c'est-à-dire la famille de mon mari, plutôt, depuis 1460. Nous sommes donc propriétaires de cette maison. Moi, je suis la 17e génération depuis 1460 et toute la famille a défilé. Il y a donc une histoire fabuleuse autour de tous ceux qui sont passés ici et qui ont parcouru des guerres, des événements historiques. Voilà, on a quand même toute une histoire très intéressante et passionnante sur cette maison.
Alors, pouvez-vous nous en donner un petit peu plus, justement ?
Alors, écoutez, voilà, beaucoup de marins dans cette maison, c'était également, on ne sait pas pourquoi, mais c'était beaucoup des officiers de marine. Alors, on a eu un officier de marine dans la marine royale de Louis XIV, qui a fait énormément de voyages, et on a un autre officier de marine, alors, dans la marine royale de Louis XV, un peu plus tard, qui, lui, a été en Chine faire sa fortune en échangeant de l'argent en métal contre de l'or aux Chinois. Et comme l'échange se faisait pratiquement kiff-kiff, en deux voyages, il avait fait sa fortune. Ceci dit, deux voyages au XVIIIe siècle, ça se passait au XVIIIe siècle, deux voyages marine à voile, bien sûr, on risquait quand même gros les tempêtes, les pirates, les maladies, tout ça, mais il a quand même réussi à s'en sortir et pouvoir faire deux voyages et ramener une fortune considérable. Il a transformé complètement son château, donc au départ c'était un château du 15e et c'est devenu un château du 18e. Il a non seulement construit un château du 18e, mais il a construit beaucoup d'annexes autour, si bien que nous avons énormément de bâtiments à entretenir.
Alors oui, une belle histoire hein, pour ce château de Daubert. Et vous, depuis quand vous êtes propriétaire de celui-ci ?
Alors, je suis arrivée à Daubert en 1978. Et ce château appartenait à une tante de mon mari qui était veuve et sans enfant. Elle avait donc choisi mon mari comme héritier. Et la pauvre tante étant bien âgée et tout, nous nous sommes installés là en 1978. C'est à partir de là que j'ai pris les rênes du gouvernement, si l'on peut dire. Voilà. Et pas mal de travaux à faire pour aménager ce château d'une façon plus confortable que du temps de la tante qui, bien sûr, n'avait pas d'enfants, donc ne voyait pas la nécessité d'avoir beaucoup de salles de bain, chauffage central et compagnie. Il y avait du travail.
Alors oui, pouvez-vous nous parler un petit peu plus justement de ces travaux de restauration que vous avez faits ?
Alors justement, déjà les travaux intérieurs, toutes les peintures ont été obligées d'être faites. Bon, il a fallu faire le chauffage central, il n'y avait rien. On se chauffait avec des poêles. Ensuite, nous avons refait les façades. Les toitures étaient en bon état, heureusement. Mais il a fallu ravaler les façades, toutes les façades extérieures, bien sûr, refaire toutes les peintures, mettre des doubles vitrages, rendre cette maison habitable et surtout confortable. Et parce que nous recevons quand même des chambres d'hôtes et il faut quand même que la maison ait un certain confort. On ne peut pas recevoir les gens dans quelque chose de trop vétuste.
Alors oui, des travaux, mais il me semble que ce château est également visitable.
Oui, bien sûr. Ah oui. Avec mon mari, nous avons très vite ouvert notre château à la visite, car nous ne voulions pas garder ça uniquement pour nous. Il fallait en faire profiter un petit peu les autres. Et nous étions tout à fait décidés à l'ouvrir à la visite. Alors d'abord, nous avons d'abord commencé à avoir des chambres d'hôtes, dès 1983, et ensuite nous avons ouvert le château pour des petites réceptions, des mariages et des visites. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons eu une visite le dimanche 7 juin. Première visite après le déconfinement, et c'est une visite qui nous a attiré quand même pas mal de monde. Nous avons eu environ 100 personnes qui ont visité l'intérieur, qui ont pu visiter l'intérieur, mais 30 qui malheureusement n'ont pas pu rentrer parce que les visites étaient limitées à 10 personnes par visite, ce qui était très peu. Et ça nous aurait emmené jusqu'à des heures impossibles si nous avions pris les 30 personnes suivantes. Bon, ce sera pour la prochaine visite.
Alors, que peut-on y découvrir justement dans ce château? Que peut-on visiter?
Alors, on visite le rez-de-chaussée. Alors, dans ce rez-de-chaussée, vous découvrez, alors, vous avez déjà tout le début de l'histoire de la famille depuis 1460. Et puis ensuite, dans le château, on leur fait découvrir, la salle à manger avec les portraits des ancêtres, celui justement qui a été en Chine, tout ce qu'il a rapporté de Chine, les porcelaines de Chine qui sont au mur. Et nous visitons le grand salon. Dans ce grand salon, il y a quand même un très beau mobilier avec et puis toute l'histoire de ce salon avec les portraits également de la famille, parce que chaque portrait a son histoire avec des anecdotes très amusantes. Par exemple, il y a un portrait, on montre un de nos ancêtres qui a été en Prusse, qui a découvert les pommes de terre qui n'existaient pas encore en France. Et il a ramené des pommes de terre en France et il a fait planter des pommes de terre à ses paysans pour que les paysans ne meurent pas de faim. Mais ces pommes de terre pourrissaient et c'est lui qui a eu l'idée de les déshydrater. Donc il est l'inventeur de la, je dis pas la purée mousseline, mais de la purée en flocons. C'est quand même extraordinaire. Et on a plein d'anecdotes comme ça, de ce style, sur l'histoire de ces portraits de famille.
Alors oui, il y a beaucoup de choses à visiter au sein justement de ce château.
Beaucoup de choses à raconter. Une visite peut durer une heure et demie, deux heures.
Alors peut-être pouvez-vous nous donner justement les horaires des visites.
Prochaine visite, ce sera le 21 juin, de 14h à 18h. C'est ouvert de 14h à 18h. Et en général, alors je vous dis, comme c'est le confinement, on est obligé de faire des visites beaucoup plus courtes parce qu'on ne peut pas faire visiter tout le monde, et on essaye de contenter le plus de personnes possible, donc on est obligé d'aller un peu plus vite, et donc les visites à peu près tous les trois quarts d'heure.
Alors peut-être des projets?
Les projets, actuellement, mais vous savez qu'on a eu un incendie épouvantable au mois de décembre, il y a toute une annexe, un bâtiment de 400 mètres carrés qui a brûlé en face du château, et ben c'est le projet, c'est restaurer ce bâtiment. Alors, nous venons de restaurer un aqueduc du 18e qui était au fond du parc. Et ça, c'était un très gros boulot, un très gros travail, mais c'est quelque chose de très réussi, c'est très joli. Très, très bel aqueduc qui servait à irriguer les terres. C'était un modèle qui avait été repris par un de mes ancêtres, celui qui avait été en Chine. Et il avait vu les Chinois, comment les Chinois irriguaient leurs terres, et à partir d'une noria. Et il a reconstruit la même chose à Dobert, et on avait cette noria qui irriguait, qui arrosait toutes les terres. Donc il reste l'aqueduc qui vient d'être restauré, qui est magnifique. Voilà. Et les projets, c'est la reconstruction du bâtiment qui a brûlé cet hiver.
Alors peut-être des contacts pour ceux qui souhaitent plus de renseignements justement sur ce château.
Oui, alors, les contacts, c'est deux numéros de téléphone, hein, c'est moi et une de mes filles. Il y a le 06 17 50 81 44 et ou le 06 03 84 78 07.
Souhaitez-vous rajouter quelque chose?
Alors, voilà, donc le château va être ouvert. Les dimanches, 21 juin, 19 juillet, 2 et 23 août et 6 et 20 septembre. Tous ces dimanches de 14h à 18h. Visite sans réservation, les gens peuvent venir mais n'ont pas besoin de réserver.
Et oui, venez nombreux pour visiter ce château de Dobert à Avoise. Madame Dupérou, je vous remercie et je vous souhaite une belle saison estivale. Au revoir.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.
Votre magazine Terre d'Héritage est terminé pour aujourd'hui. Passez une excellente journée sur l'antenne de Radio Alphemancel, 106.3 FM.